Lettre d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus. 11e partie. 22 mai 1896. Ma chère Lucie, tes bonnes et si affectueuses lettres de mars ont été les chers et doux compagnons de ma solitude. Je les ai lues, relues, pour me rappeler mon devoir. Chaque fois que la situation m'écrasait sous son poids. J'ai souffert avec toi, avec tous. Toutes les angoisses épouvantables par lesquelles vous passez sont venues faire écho aux miennes. Tu me demandes de t'écrire, de venir dégonfler auprès de toi mon cœur meurtri et déchiré chaque fois que l'amertume en serait trop grande. Ah, ma pauvre Lucie, si je voulais t'écouter, je t'écrirais bien souvent, car je n'ai pas un moment de répit. Mais pourquoi viendrais-je ainsi t'arracher l'âme? Je le fais déjà trop fréquemment, et quand je suis venu gémir ainsi, j'en ai toujours un regret cuisant. Car tu souffres déjà assez, beaucoup trop, mais que veux-tu? Il est impossible de se dégager entièrement de son « moi », d'étouffer toujours les révoltes de son cœur, d'être toujours maître de ses nerfs malades. Mon seul moment de détente est quand je t'écris, et alors tout ce que j'ai contenu de douleur pendant un long mois vient parfois sous ma plume. Et puis, je ressens tellement au plus profond de mon être toute l'horreur d'une situation pareille, aussi bien pour toi que pour moi, que pour tes chers parents, pour tous les nôtres, enfin, que des éclats de colère, des frémissements d'indignation m'échappent malgré moi. Des cris d'impatience s'exhalent alors de voir enfin le terme de cet abominable supplice de tous. Je souffre de mon impuissance à alléger ton atroce douleur, de ne pouvoir que te soutenir de toute la puissance de mon affection, de toute l'ardeur de mon âme. Ah, certes, oui, chère Lucie, je sens bien l'atroce déchirement qui doit se faire en toi quand, à chaque courrier, après un long mois d'attente, de souffrance et d'angoisse, tu ne peux encore pas m'annoncer la découverte des coupables, le terme de nos tortures. Et si alors je hurle, si je rugis parfois, si le sang bout dans mes veines, devant tant de douleurs si longues, si imméritées, oh, c'est autant pour toi que pour moi, car si ma douleur était seule, il y a un beau temps que j'y eusse mis un terme, laissant à l'avenir le soin d'être notre juge suprême à tous. C'est dans ta pensée, dans celle de nos chers enfants, dans ma volonté de te soutenir, de voir le jour où l'honneur nous sera rendu, que je puise toute ma force. Quand je chavire, écrasé sous tout réuni, quand mon cerveau s'égare et que mon cœur n'en peut plus, quand mon cœur enfin défaille, je murmure au-dedans de moi-même trois noms, le tien, ceux de nos chers enfants, et je me raidis encore contre ma douleur, et rien ne s'exhale de mes lèvres muettes. Certes, je suis très affaibli, il n'en saurait être autrement, mais tout s'efface en moi, souvenirs hallucinants, souffrances, atrocités, de ma vie journalière, devant cette préoccupation si haute, si absolue, celle de notre honneur, le patrimoine de nos enfants. Je viens donc, comme toujours, te crier de toutes mes forces, avec toute mon âme, courage et courage, pour marcher bravement à ton but. Tout l'honneur de notre nom. Et souhaiter pour tous deux que ce but soit enfin atteint. Les chères petites lettres des enfants me causent toujours une émotion extrême. Je les arrose souvent de mes larmes, j'y puise aussi ma force. On me dit dans toutes les lettres que tu élèves admirablement ces chers petits. Si je ne t'en ai jamais parlé, c'est que je le savais, car je te connais. Te parler de mon affection, de celle qui nous unit tous, c'est inutile, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire encore que ma pensée ne te quitte pas un instant, de jour et de nuit, que mon cœur est toujours auprès de toi, de nos enfants, de vous tous, pour vous soutenir et vous animer de mon indomptable volonté. Je t'embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur, ainsi que nos chers enfants, en attendant de recevoir vos bonnes lettres. Seul rayon de bonheur qui vienne réchauffer mon âme meurtrie. Ton dévoué, Alfred. Baiser à tes chers parents, à tous. Le 5 juin 1896. Ma chère Lucie, je n'ai pas encore reçu tes bonnes lettres d'avril. Aussi ai-je dû me contenter de relire, comme je le fais chaque jour, souvent plusieurs fois par jour, tes bonnes et affectueuses lettres de mars, et j'y ai puisé un peu de calme. Je ne veux cependant pas laisser partir le courrier anglais sans venir bavarder avec toi, me rapprocher de toi. Oh, je te vois bien d'ici par la pensée, ma chère et bonne Lucie, car elle ne me quitte pas un seul instant. Je sens tes moments de crise, quand après un espoir qu'on est venu t'apporter, cet espoir est encore une fois trompé. Lorsqu'après un moment de détente, d'apaisement, tu retombes dans un désespoir violent en te demandant avec angoisse quand cessera cet abominable cauchemar dans lequel nous vivons depuis si longtemps. Et puis, tu m'écris, et tu trouves dans ta belle âme, dans ton cœur aimant et dévoué, la force de me cacher les atroces tortures, les angoisses épouvantables par lesquelles tu passes. Et alors, moi qui sens, qui devine tout cela, dont le cœur broyé et déchiré dans ses sentiments les plus purs, dans ses affections les plus chères, déborde, dont le sang bout dans les veines devant tant de douleurs accumulées sur tous deux, sur nos familles, dont la raison enfin se révolte, je viens jeter dans mes lettres les cris d'angoisse et d'impatience de mon âme, et j'en souffre ensuite tout un long mois, en pensant à l'émotion que tu vas avoir, et j'en suis plus malheureuse encore. Frappée avec moi dans ton honneur d'épouse et de mère, au lieu de t'apporter cet appui moral, inébranlable, énergique, ardent, qui t'est nécessaire dans la noble mission qui t'incombe, je suis venu parfois me lamenter, t'entretenir de petites souffrances, de petites tortures, que sais-je, augmenter ainsi ta poignante douleur. Tu pardonneras à ma faiblesse, faiblesse humaine trop naturelle, hélas. Les mots d'ailleurs sont bien impuissants à traduire un martyr pareil au nôtre, mais il ne peut y avoir qu'un terme, la découverte des coupables, la réhabilitation pleine et entière, tout l'honneur de notre nom, de nos chers enfants. Je viens donc, comme toujours, ajouter à cette lettre, qui t'apportera l'écho de ma profonde affection, ce cri ardent de mon âme. Courage et courage, chère Lucie, pour marcher à ton but, avec une volonté farouche et ardente, jamais défaillante, et souhaiter pour tous deux, pour nos enfants, pour tous, qu'ils soient bientôt atteints. Tu embrasseras beaucoup les chers petits pour moi, je ne vis d'ailleurs qu'en eux, qu'en toi, et j'y puise ma force. Embrasse bien tes chers parents, tous les nôtres pour moi, remercie-les de leurs bonnes et si affectueuses lettres. Je termine à regret cette lettre en t'embrassant bien fort, si fort que je peux, comme dit notre cher petit Pierre. Ton dévoué, Alfred. Soir. Je viens de recevoir enfin tes envois et livres des mois de décembre, janvier et février, et je t'assure que j'en avais bien besoin. Encore de bons et ardents désirs pour toi, nos chers enfants, tes chers parents, tous les nôtres enfin. Et je termine par ce cri ardent de mon âme. Toujours et encore courage, ma chère et bonne Lucie. Le 24 juillet 1896. Ma chère Lucie, je n'ai pas reçu tes lettres de mai. Les dernières nouvelles que j'ai de toi datent de 3 mois. Tu vois que les coups de massue ne me manquent pas. Je ne veux pas augmenter tes peines en te décrivant ma douleur. D'ailleurs, peu importe. Quel que soit notre supplice, si épouvantable que soit notre martyre, le but est invariable, ma chère Lucie. La lumière, l'honneur de notre nom. Je ne fais que te répéter ce cri de mon âme. Du courage et du courage, jusqu'à ce que le but soit atteint. Quant à moi, je retiens de toute mon énergie ce qui me reste de force. Je comprime nuit et jour mon cerveau et mon cœur, car je veux voir la fin de ce drame. Je souhaite pour tous deux que ce moment ne tarde plus. Quand tu recevras ces quelques lignes, le jour de ta fête sera passé. Je ne veux pas insister sur des pensées aussi cruelles pour tous deux, mais je ne saurais être plus en esprit avec toi ce jour-là que les autres. Je t'embrasse de tout mon cœur, de toutes mes forces, ainsi que nos enfants. Ton dévoué, Alfred. Le 4 août 1896. Ma chère Lucie, j'ai reçu tes lettres de mai et de juin toutes ensemble, ainsi que celles de la famille. Je ne veux pas te décrire mon émotion après une si longue attente, car nous n'avons pas à nous laisser aller à des impressions aussi poignantes. Je n'ai trouvé que 2 lettres de toi dans le courrier de mai, et j'ai été heureux de voir que tu étais installé à la campagne avec les enfants. Peut-être y trouveras-tu un peu de repos, si nous pouvons jouir de quelque repos, tant que l'honneur ne nous sera pas rendu. Oui, chère Lucie, des souffrances telles que les nôtres, aussi imméritées, laissent l'esprit hébété. Mais n'en parlons plus, il est des choses qui provoquent d'irrésistibles indignations. Si je suis nerveux de voir arriver le terme de nos tortures à tous, si, sous l'influence des révoltes de mon cœur, mes lettres sont pressantes, crois bien que ma confiance, comme ma foi, sont absolues. Dis-toi que je ne vous ai jamais dit « Espérez !» Je vous ai dit « Il nous faut la vérité tout entière. » Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Mais ce but sera atteint. Il le faut. Fermons nos yeux sur nos tortures. Comprimons nos cerveaux et nos cœurs. Courage et vaillance, chère Lucie, sans une minute de faiblesse ou de lassitude. Pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, il faut la lumière, l'honneur de notre nom. Je viens, comme toujours, te crier à toi, comme à tous, ô les cœurs et les volontés. Je souhaite de toute mon âme, pour tous deux, pour tous, d'apprendre que ce supplice a un terme. Embrasse nos enfants pour moi et reçois pour toi les meilleurs baisers de ton dévoué, Alfred. Embrasse tes parents, tous les nôtres pour moi. Le 24 août 1896. Chère Lucie, j'ai répondu au début du mois quelques lignes seulement à tes chères lettres de mai et de juin. L'impression qu'elles me causaient, après une si longue attente, était trop vive pour que je pusse t'écrire longuement. Je les lis et relis chaque jour. Il me semble vivre ainsi quelques instants près de toi, sentir ton cœur battre près du mien. Et quand je considère ce morceau de papier banal sur lequel je t'écris, je voudrais pouvoir y mettre tout mon cœur, tout ce qu'il contient pour toi, pour nos enfants, pour tous, l'imprégnant ainsi de toute l'ardeur de mon âme, de tout mon courage, de toute ma volonté. Crois donc, chère Lucie, que je n'ai jamais un moment de découragement quant aux résultats à atteindre. Mais aussi, quelle impatience me dévore de voir arriver le terme de ces atroces tortures. Il est des douleurs tellement intenses pour des gens de cœur que la plume est impuissante à les rendre. Et cette douleur, la même pour nous tous, je la renferme nuit et jour sans qu'une plainte s'exhale de mes lèvres. J'accepte tout, comprimant mon cœur, tout mon être, ne voyant que le but. Je t'ai écrit au commencement de juillet une lettre qui a encore dû t'émotionner, ma pauvre Lucie. J'étais alors en proie aux fièvres. Je ne recevais pas ton courrier. Tout à la fois. Et alors, la bête humaine s'est réveillée pour te jeter ses cris de détresse et de douleur, comme si tu ne souffrais pas déjà assez. J'ai cependant réagi, tout surmonté, dominé l'être physique comme l'être moral. J'ai su d'ailleurs depuis que ton courrier était arrivé sans retard à Cayenne, par suite d'une erreur de destination. Je ne l'ai reçu qu'avec celui de juin. Je ne puis donc que me répéter, chère Lucie, pour toi comme pour tous, les yeux invariablement ardemment fixés sur le but, sans une minute de lassitude jusqu'à ce qu'il soit atteint. Toute la vérité pour la France entière, tout l'honneur de notre nom, le patrimoine de nos enfants. Embrasse S. point. Et leurs chers enfants pour moi. Dis bien à Mathieu que si je ne lui écris pas plus souvent, c'est que je ne le connais trop bien, c'est que sa volonté restera toujours aussi inflexible jusqu'au jour de l'éclatante lumière. Merci des bonnes nouvelles que tu me donnes des chers petits. Remercie tes parents, tous les nôtres, de leurs bonnes lettres. Quant à toi, ma chère Lucie, forte de ta conscience, sois invinciblement énergique et vaillante, que ma profonde affection, nos enfants, ton devoir, te soutiennent et t'animent. Je t'embrasse encore, comme je t'aime, de toutes mes forces, ainsi que nos chers enfants, en attendant tes bonnes lettres de juillet. Ton dévoué, Alfred. Le 3 septembre 1896. Chère Lucie, on m'a apporté tout à l'heure le courrier du mois de juillet. Je n'y ai trouvé qu'une pauvre petite lettre de toi, celle du 14 juillet, quoique tu aies dû m'écrire plus souvent et plus longuement. Mais peu importe. Quel cri de souffrance s'échappe de toutes tes lettres et vient faire écho aux miennes. Oui, chère Lucie, jamais êtres humains n'ont souffert comme toi, comme moi, comme nous tous enfin. La sueur m'emperle au front. Je ne vivais que par une tension inouïe des nerfs de la volonté, comprimant tout l'être par un effort suprême. Mais les émotions brisent, font vibrer toutes les fibres de l'être. Mes mains se tordent de douleur pour toi, pour nos enfants. Pour tous. Un immense cri voudrait s'échapper de ma gorge et je l'étouffe. Ah, que ne suis-je seul au monde? Quel bonheur j'aurais à descendre dans la tombe pour ne plus penser, pour ne plus voir, pour ne plus souffrir. Mais le moment de faiblesse, de détraquement, de tout l'être, de douleur enfin, est passé et dans cette nuit sombre, je viens te dire, chère Lucie, qu'au-dessus de toutes les morts, car quelle agonie ne connais-je pas, aussi bien celle de l'âme que celle du corps, que celle du cerveau, il y a l'honneur, que cet honneur qui est notre bien propre, il nous le faut. Seulement, les forces humaines ont des limites pour nous tous. Aussi, au reçu de cette lettre, si la situation n'est pas enfin éclaircie, agis comme je te le disais déjà l'année dernière. Va toi-même, prends, s'il le faut, un enfant par chaque main, ses deux têtes chéries et innocentes, et fais des démarches auprès de ceux qui dirigent les affaires de notre pays. Parle simplement avec ton cœur, et je suis sûr que tu trouveras des cœurs généreux qui comprendront ce cas d'épouvantable, ce martyr d'une épouse, d'une mère, et qui mettront tout en œuvre pour t'aider dans cette tâche noble et sainte, la découverte de la vérité, l'auteur de ce crime infâme. Oh, chère Lucie, écoute-moi bien et suis mes conseils. Dis-toi bien qu'il ne faut voir qu'une chose, le but, et chercher à l'atteindre. Car, oh, cela je le voudrais de toute mon âme. Voir, avant de succomber, l'honneur rendu au nom que portent nos chers adorés. Te revoir, toi, nos enfants, heureux, jouissant d'un bonheur que tu mérites tant, ma pauvre et chère Lucie. Et comme ce papier me paraît froid, de ne pouvoir y mettre tout mon cœur, tout ce qu'il contient pour toi, pour nos enfants. Je voudrais écrire avec mon sang, peut-être m'exprimerai-je mieux. Et quoique je ne puisse plus rien te dire, je continue à causer avec toi, car cette nuit va encore être longue, traversée par d'horribles cauchemars, où je te vois, toi, nos enfants, mes chers frères et sœurs, tes chers parents, tous les nôtres, enfin. Tu vois, chère Lucie, que je te dis bientôt, que je t'exhale toutes mes souffrances, que je te dis bien toutes mes pensées. D'ailleurs, en ce moment, je serais bien incapable de faire autrement. Et ma pensée, nuit et jour, est toujours la même. Le même cri s'exhale toujours de mes lèvres. Oh, tout mon sang, goutte à goutte, pour avoir la vérité sur cet effroyable drame. Tu pardonneras le décousu de cette lettre. Je t'écris, comme je te le disais, sous le coup d'une émotion profonde, ne cherchant même pas à rassembler mes idées, m'en sentant même incapable, me disant avec effroi que je vais passer tout un mois n'ayant comme lecture que tes pauvres lignes si courtes où tu me parles des enfants, où tu ne me parles pas de toi, où je n'aurai rien, enfin, à lire de toi. Cependant, je vais tout de même essayer de me résumer. Mes souffrances sont grandes comme les tiennes, comme les nôtres. Les heures, les minutes sont atroces et resteront telles tant que la lumière pleine et entière ne sera pas faite. Aussi, comme je te le disais, je suis convaincu qu'en agissant aussi toi-même, en parlant avec ton cœur, on mettra tout en œuvre pour raccourcir, si possible, le temps, car si le temps n'est rien, quant au but à atteindre et qui domine tout, il compte, hélas, pour nous tous, car ce n'est pas vivre que d'endurer des souffrances pareilles. Il faut cependant que je termine bien à regret cette lettre où je me sens si impuissant à mettre toute l'affection que j'ai pour toi, pour nos enfants, pour tous, ce que je souffre de nos atroces tortures, à te faire sentir enfin les sentiments qui sont dans mon âme. L'horreur de cette situation, de cette vie, horreur qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que le cerveau humain peut rêver de plus dramatique, et, d'autre part, mon devoir qui me commande impérieusement, pour toi et pour nos enfants, d'aller tant que je pourrai. Un mois maintenant, avant de te lire, seule parole humaine qui me parvienne. Enfin, je vais finir ce bavardage qui calme un peu ma douleur, en te sentant près de moi dans ces lignes que tu liras, et te crier courage et encore du courage, car avant toute chose, il y a l'honneur du nom que portent nos chers enfants. Te dire que ce but est immuable, mais d'agir aussi comme je te l'ai dit, car un concours de cœur généreux que tu trouveras, j'en suis sûr, ne peut que réaliser plus rapidement le vœu suprême que je te crie encore, la vérité sur ce lugubre drame, voir auprès de nos chers petits le jour où l'honneur nous sera rendu. Et j'ajoute encore pour toi, comme pour tous, ce cri ardent et suprême de mon âme qui se lève dans la nuit profonde. Tout pour l'honneur, ce doit être notre seule pensée, votre seule préoccupation, sans une minute de lassitude. Le 4 septembre 1896. Chère et bonne Lucie, je t'ai écrit une lettre hier au soir sous l'impression que me causait le courrier les souffrances que nous endurons tous, la douleur enfin de ne lire que quelques lignes de toi, car après un long silence angoissé de tout un mois, il se produit fatalement à ce moment une détente nerveuse. Je suis comme fou de chagrin, je prends ma tête à deux mains et je me demande par quelle misère du destin tant d'êtres humains sont appelés à souffrir ainsi. Aussi, j'éprouve le besoin de venir causer encore avec toi. Peut-être cette lettre pourra-t-elle encore prendre le courrier anglais, comme la précédente. Si je suis fatigué, épuisé, te dire le contraire, tu ne me croirais pas. Car souffrir ainsi sans répit, à toutes les heures du jour et de la nuit, sentir souffrir ceux que l'on aime, se voir frapper dans ses enfants, ces chers petits êtres, pour lesquels je donnerais, nous donnerions toutes les gouttes de notre sang, tout cela est parfois trop atroce et la douleur trop grande. Mais je ne suis, chère Lucie, ni découragé, ni abattu, crois-le bien. Plus les nerfs sont tendus à l'excès, par tous les supplices, plus la volonté doit devenir vigoureuse dans son dessein d'y mettre un terme. Et le seul terme à nos tortures à tous, c'est la découverte de la vérité. Si je vis contre mon corps, contre mon cœur, contre mon cerveau, luttant contre tout cela avec une énergie farouche, c'est que je veux pouvoir mourir tranquille, sachant que je laisse à mes enfants un nom pur et honoré, te sachant heureuse. Ce qu'il faut te dire, nous dire à tous, c'est qu'il n'y a qu'un terme à notre situation. La lumière, et alors, partant de ce terme qui domine tout, il faut étouffer tout ce qui gronde dans nos cœurs, ne voir que lui, et chercher à l'atteindre le plus tôt possible, car les heures deviennent de plomb. En faisant appel, comme je te le disais hier au soir, à tous les concours, à toutes les bonnes volontés pour t'aider à faire la lumière, je suis sûr que tu en trouveras et que, devant cette douleur immense, effroyable, d'une épouse, d'une mère, qui ne veut que la vérité, l'honneur du nom que portent ses enfants, tout se taira pour ne voir que le but suprême, cette œuvre aussi noble qu'élevée. Donc, chère Lucie, gémir, nous lamenter, nous entretenir de nos souffrances, tout cela ne nous avancera à rien. Sois calme, réfléchis, mais rassemble ton courage. Entoure-toi de tous les conseils pour poursuivre et atteindre le but, et souhaitons pour toi que ce moment ne tarde plus trop. Embrasse tes parents, nos frères et sœurs, les tiens pour moi. Je t'embrasse comme je t'aime, plus fort que jamais, de toute la puissance de mon affection, ainsi que nos chers et adorés enfants. Ton dévoué, Alfred. 5 heures du matin. Avant de remettre cette lettre, je veux encore venir t'embrasser de toute mon âme, de toutes mes forces, te répéter que ta conscience, ton devoir, nos enfants, doivent être pour toi des leviers irrésistibles qu'aucune douleur humaine ne saurait faire ployer. Septembre 1896. Chère et bonne Lucie, je t'écris au reçu du courrier de juillet. La détente nerveuse a été trop forte, trop violente. J'ai un besoin irrésistible de venir causer avec toi, après ce long silence angoissé de tout un mois. Oui, parfois la plume me tombe des mains, et je me demande à quoi bon écrire tant. Je suis hébété par tant de souffrances, ma pauvre et chère Lucie. Oui, souvent aussi je me demande ce que j'ai fait pour que toi, que j'aime tant, mes pauvres enfants, nous tous enfin, soyons appelés à souffrir ainsi, et j'ai certes des moments de désespérance farouche, de colère aussi, car je ne suis pas un saint. Mais alors, j'évoque toujours ta pensée, celle des pauvres petits, et ce que j'ai voulu t'inspirer, vous inspirer à tous, depuis le début de ce lugubre drame. C'est qu'au-dessus de tout cela, il y a quelque chose de plus haut, de plus élevé. Ma lettre est comme un hurlement de douleur, car nous sommes comme de grands blessés, dont les âmes sont tellement frappées par la douleur, dont les corps sont tellement exaspérés par une si longue souffrance, que la moindre chose suffit à faire déborder la coupe trop pleine, trop contenue. Mais, chère Lucie, parler toujours de sa douleur ne lui est pas un remède et ne fait que l'exaspérer. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, et nous sommes tous horriblement malheureux. Certes, le but domine tout, souffrance et vie, je te l'ai dit bien souvent, car il s'agit de l'honneur d'un nom, de la vie de nos enfants. Ce but doit être poursuivi sans faiblesse, jusqu'à ce qu'il soit atteint. Mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il vit des impressions de chaque jour, et chaque journée se compose de trop de minutes épouvantables dans l'attente depuis si longtemps d'un meilleur lendemain. Ce n'est ni avec des colères, ni avec des lamentations que vous hâterez le moment où la vérité sera découverte. Rassemble tout ton courage, et il doit être grand. Forte de ta conscience, du devoir à remplir, ne vois que le but. Ne consulte que ton cœur d'épouse et de mère, horriblement mutilé, broyé, depuis de si longs mois. Oh, chère Lucie, écoute-moi bien, car moi j'ai tant souffert, j'ai supporté tant de choses que la vie m'est profondément indifférente, et je te parle comme de la tombe. Du silence éternel qui vous place au-dessus de tout. Je te parle en père, au nom du devoir que tu as à remplir vis-à-vis de nos enfants. Va trouver, monsieur le président de la République, les ministres, ceux-mêmes qui m'ont fait condamner, car si les passions, l'emportement, égarent parfois les esprits les plus honnêtes, les plus droits, les cœurs restent toujours généreux et sont prêts à oublier ce même emportement devant cette douleur effroyable d'une épouse, d'une mère, qui ne veut qu'une chose, la seule que nous ayons à demander, la découverte de la vérité, l'honneur de nos chers petits. Parle simplement, oublie toutes les petites misères. Quelle importance ont-elles devant le but à atteindre? Et je suis sûr que tu trouveras, que vous trouverez tous un concours ardent, généreux, pour sortir le plus tôt possible d'une situation tellement atroce, supportée depuis si longtemps, que je me demande encore comment nos cerveaux à tous ont pu y résister. Je te parle dans tout mon calme, dans ce grand silence douloureux, il est vrai, mais qui vous élève au-dessus de tout. Agis comme je te le demande. Ne vois qu'une chose, ma chère et bonne Lucie, le but qu'il faut atteindre, la vérité, en faisant appel à tous les dévouements. Oh, car cela je le voudrais avec toutes les fibres de mon être, voir encore le jour où l'honneur nous sera rendu. Donc, courage, chère Lucie. Je te le demande avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Je t'embrasse comme je t'aime, de toute la puissance de mon affection, ainsi que nos chers et adorés enfants. Ton dévoué, Alfred. Fin du 11e fichier des Lettres d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus.